Emmanuel Chantebout est peintre. Il a fondé il y a 6 ans à Pékin, au 798, la galerie Périph.net. Alors Périph.net, c'est une adresse de site internet. C'est la galerie Périph, et Périph, c'est avec un F à la fin. Alors, cette galerie a été fondée à une époque où Da Shenzhen n'attirait pas encore les foules et où le boom de l'art contemporain chinois commençait à peine. Alors Emmanuel Chantebout, qu'est-ce que vous faisiez avant de partir en Chine ?
Eh bien, je travaillais à la Maison d'arrêt de la Santé comme professeur de dessin.
Ça, c'est original, effectivement. On ne s'attend pas à vous voir partir en Chine. Alors, est-ce que ce pays, vous en avez rêvé ?
D'une certaine façon, c'est assez inattendu, mon départ pour la Chine. Donc, je n'étais absolument pas prêt. Je ne parlais absolument aucun mot de chinois. Pas d'intérêt particulier pour le pays. Et c'est mon épouse qui a eu l'obligation d'un déplacement professionnel et qui m'a convaincu d'aller vivre à Pékin.
Elle a eu raison.
Absolument.
Alors donc, vous ne rêviez pas de ce pays, mais quand elle vous a dit « bon, allez, on part à Pékin », qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit ? Comment vous avez imaginé les choses ?
C'était difficile de partir avec le moindre préjugé. Il y a beaucoup de voyageurs qui préparent leur voyage en engloutissant un maximum d'ouvrages sur de romans ou de documentation sur le pays de destination. Et j'avais envie d'y aller un peu les mains dans les poches, complètement vierge de tout a priori. Et je veux dire que grand bien m'en a pris parce que là-bas, c'est le pays de l'émerveillement permanent et l'émerveillement qui se renouvelle. J'ai pu passer comme ça plusieurs années sans jamais être blasé.
Oui, ça c'est sûr que... Et finalement, ne rien préparer, c'est la meilleure chose pour être surpris.
Probablement, mais on peut aussi être surpris en préparant quelque chose et puis en voyant...
En voyant le décalage.
Voilà, en profitant un peu du décalage.
Alors, donc, votre installation à Pékin vous a fait reprendre votre travail artistique, que finalement, vous aviez un petit peu abandonné.
Oui, c'est vrai que j'habitais à Belleville, et faute de place, je peignais sur un coin de la table de la salle, enfin, de la cuisine. Et j'étais limité à des tout petits formats. Je donnais aussi des cours, en plus de la Maison d'arrêt de la Santé, à la MJC de Neuilly. On me demandait souvent ce que je faisais comme peinture. J'étais toujours un peu embarrassé de leur dire « bah, écoutez, je fais des trucs qui ne sont pas terribles
». Et pourtant, donc vous avez fait les Beaux-Arts quand même, il faut le préciser.
Ah oui, oui.
Vous avez travaillé avec Jean-Michel Alberola, c'est ça ?
Ah, j'étais dans l'atelier de Jean-Michel Alberola, absolument.
Ah, c'est ça, donc vous avez une bonne formation, comme on dit ?
Oui, puis j'avais fait aussi une licence en art plastique à Paris 1.
Oui, donc une formation complète de praticien et de théoricien, en quelque sorte. Alors, à Pékin, quand vous vous installez, vous reprenez votre travail artistique. Bah, on a envie de vous demander pourquoi ?
Eh bien... Quand vous arrivez à Pékin sans parler un mot de chinois, vous avez envie aussi de faire partager vos émotions. Il n'y a personne non plus, à part votre épouse, qui est très prise professionnellement, donc qui rentre aussi très tard le soir, avec qui parler. Et la peinture, pour moi, c'est le dessin. Ça a toujours été un moyen d'expression. Donc là-bas, je me suis un peu lâché, des grands formats. Enfin, bon, ce que j'appelle les grands formats, ça reste quand même très raisonnable. Jamais au-dessus de 2,50 m.
Oui, mais enfin, dans la cuisine à Belleville, ça n'allait pas non plus.
Oui, mais à l'échelle chinoise, c'est rien. Parce que là-bas, les peintres font des toiles qui dépassent facilement les 5 mètres.
Oui, mais ça, c'est dû à la taille des ateliers, c'est ça ?
Et des appartements.
Oui. Ah oui, l'appartement oui. Va avec.
C'est-à-dire que les collectionneurs là-bas ont grands moyens et forcément de grands appartements aussi.
Oui, c'est vrai que c'est assez logique. Alors, quel regard vous portez sur la scène artistique pékinoise, hein, depuis votre arrivée et puis votre retour maintenant en France ?
Bah écoutez, c'est assez contrasté. J'ai eu la chance là-bas de rencontrer un ami, m'a fait rencontrer un peintre officiel du régime, Monsieur Liu, qui était un proche de Mao. Donc j'ai eu, accès à toute la gamme de production chinoise depuis une soixantaine d'années. Donc là, c'est des œuvres de propagande. Mm-hmm. À Tidioba, l'atelier des frères Gao, qui sont un peu le poil à gratter du régime.
Alors Tidioba, quand même, pour ceux qui ne pratiquent pas le chinois dans le texte, c'est le 798. C'est oui. Les chiffres 7, 9, 8.
Et au passage, pardonnez mon accent. Mauvaise prononciation du chinois.
Votre accent me paraît tout à fait bien, parce que le mien est inexistant, donc voilà. Je pense que s'il y a des Chinois qui nous écoutent, ils auront compris de quoi on parle. Alors, donc, vous avez pu voir de la peinture de l'époque de Mao, et donc l'atelier des frères Gao, et puis bien évidemment, vous avez baigné, en étant installé au 798 pour travailler, vous avez baigné dans cette énergie et ce dynamisme.
C'est-à-dire que c'est un peu contrasté comme impression par rapport à Tidioba, parce que, enfin 798, parce que ça a surtout été conçu comme une vitrine, un lieu de vente, un peu un lieu de démonstration de l'art contemporain chinois. Au début, il y a peut-être eu une ambiance, c'est vrai qu'il y avait quand même la présence de beaucoup d'artistes, mais très vite, la zone s'est un peu dévoyée, mais c'était la nature de l'endroit, de devenir une zone commerciale. Alors les rencontres artistiques à Tidioba, elles ont existé, mais les plus belles rencontres, c'est la visite des ateliers ailleurs, en périphérie.
Alors justement, ailleurs, c'est où ?
Ailleurs, il y a énormément d'ailleurs. Il y a un peu partout des ateliers de peinture à Pékin. Il y a un très grand village d'artistes dans l'est de Pékin, mais autour de Dachanze, il y a énormément d'ateliers de peintres, de sculpteurs.
Le village de l'est, c'est Zhongzhang.
C'est ça.
Ouais, mon accent n'est pas terrible non plus, mais enfin bon, on voit de quoi on parle. Le 798, pour quelqu'un qui ne connaît pas, est-ce que vous pourriez décrire le lieu ? Comment ça se passe quand on arrive ? Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que même en 5 ans, la première fois que j'y suis allée, bon, le taxi ne savait pas où c'était. Pourtant, c'est dans une banlieue proche de Pékin. Il ne savait vraiment pas de quoi je voulais parler. Pourtant, quelqu'un qui parlait chinois lui a expliqué, hein, parce que évidemment, moi, c'était logique qu'ils ne comprennent pas. Et donc on s'est perdu. Ensuite, il n'y avait pas de signalétique à l'entrée, etc., etc. Et puis, quand j'y suis retourné petit à petit, et l'année dernière, j'ai vu que maintenant, c'était le truc, on ne pouvait pas le rater, et tous les chauffeurs de taxi savaient emmener les gens. Donc, une fois qu'on est rentré, puisque maintenant, le chauffeur de taxi ne se perd pas, qu'est-ce qu'on voit au 798 ?
Alors, bon, c'est vrai que la signalétique a changé. Le propriétaire des lieux, l'entreprise Seven Star, a été convaincu d'oublier ses projets immobiliers et de pérenniser l'endroit. Il y a eu aussi les Jeux Olympiques, probablement, qui ont poussé les autorités municipales à changer leur plan. Ça a aussi été pour le régime chinois une vitrine de la tolérance vis-à-vis de l'art contemporain. Alors, d'une ancienne friche industrielle assez laide.
Mais gigantesque, en tout cas.
Et oui.
Faut le dire.
On a maintenant, une sorte de Luna Park un peu artistique. C'est-à-dire qu'il y a énormément de galeries qui rivalisent de déco extérieure, un peu à la chinoise, donc ça peut être aussi très flashy. Il y a eu un centre d'art contemporain qui s'est installé là-bas, à grand renfort aussi de communication.
Le Ullens Center.
Ullens. Et puis les médias occidentaux qui ont énormément fait de tapage autour de 798. Et naturellement, les médias chinois qui ont relayé par la suite le buzz.
Alors, est-ce que vous pensez que ces villages d'artistes, c'est important pour la vie artistique chinoise ?
Bah, si vous voulez, c'est le phénomène comme partout ailleurs. On a au départ un groupe d'artistes qui prend possession d'un lieu parce qu'ils sont attirés par des grandes surfaces et des loyers très bas. Et ensuite, le business arrive, chasse les artistes, les loyers flambent. Et donc les artistes se retrouvent à rechercher d'autres endroits. Alors le village dont vous parlez, c'est le même phénomène. C'est-à-dire qu'au début, on avait une poignée de gens qui ont ouvert, qui ont transformé des fermes. Quand je dis des fermes, c'est juste des maisons de paysans en atelier. Et maintenant, si vous voulez un ordre d'idée, je crois que ça coûtait à peu près 5 000 euros une maison là-bas, un pinfang, avec un terrain d'à peu près 1000 mètres. Et maintenant, c'est absolument hors de prix.
5000 euros à l'achat ?
À l'achat. Et maintenant, c'est introuvable.
Oui, évidemment.
Mais 5000 euros, c'était déjà une petite somme.
Pour un Chinois, oui.
Pour un Chinois. Donc, je ne sais pas quelle est la situation actuelle, mais c'est toujours le problème, l'argent et le sacrifice que doivent faire les artistes pour être libres et pour créer.
Ça, c'est un problème mondial, mais en tout cas, le problème de l'argent est particulièrement aigu en Chine. Donc, vous avez fondé votre galerie. Alors, comment ça s'est passé ?
Alors, ça a été, je dirais, c'est un peu un concours de circonstances. J'avais, en sortant des Beaux-Arts, créé avec... j'étais plutôt l'animateur d'un petit site internet qui s'appelait Périph.net, où j'essayais de fédérer quelques amis autour de ce projet d'exposition permanente sur le net. Faut dire qu'aujourd'hui, ça paraît banal, mais il y a 10 ans de ça, finalement, c'était...
C'était presque novateur.
C'était presque novateur, mais bon, c'était pas le début du net non plus. Et puis, arrivé à Pékin, on me propose plusieurs endroits, justement, dans 798, et notamment un ancien garage à vélo à l'angle de deux rues. J'avais déjà trouvé un local pour mon atelier. C'était déjà le troisième atelier dans Pékin. J'avais déménagé plusieurs fois. Et puis, je me suis dit, cet endroit est minuscule, mais ça peut faire une vitrine très sympathique pour faire une petite galerie. Et donc, j'ai fait quelques travaux. Alors, pareil pour des sommes dérisoires. Une première exposition qui m'a immédiatement remboursé de ces travaux. Et puis, un an après, des travaux gigantesques, là, où j'ai tout transformé. J'ai rehaussé la toiture, j'ai augmenté les vitres.
Et donc, vous avez fait une vraie galerie.
Et c'était, de toute manière, conçu comme une vraie galerie dès le départ.
Maintenant, la page est tournée, puisque vous êtes parti de Pékin, ou cette galerie continue sans vous ?
Alors, cette galerie continue sans moi. C'est-à-dire que là-bas, j'ai pris une employée et je lui ai laissé les rênes de la galerie.
D'accord. Donc, vous n'avez plus droit de regard sur ce qu'elle expose, mais vous lui avez cédé, en quelque sorte.
Je l'ai cédé absolument, oui. Voilà. Sans aucune contrepartie.
Voilà, sans la vendre.
Non.
Alors ça, c'est pas à la chinoise du tout. Mais c'est plutôt sympathique comme expérience. Si vous deviez revenir en Chine, vous iriez à Pékin fonder une nouvelle galerie ou feriez autre chose ?
Je pense que je ferais autre chose aujourd'hui.
Ailleurs qu'à Pékin ?
Probablement aussi ailleurs qu'à Pékin, oui.
Alors, on a dit que vous étiez peintre, vous avez fait une galerie, certes, mais vous avez travaillé, puisque vous aviez eu des ateliers. Quels sont vos axes de travail, là-bas ?
La population chinoise, la foule. La surpopulation et l'impression de faire partie d'une grande masse grouillante.
Elle est tellement grouillante, d'ailleurs, que vous, que vous touchez le micro et que ça fait un drôle de bruit d'explosion. Donc vous venez d'exposer à Paris, c'est des peintures faites à Pékin. Comment le public parisien réagit-il à votre travail fait en Chine ?
Eh bien, il y a toujours la surprise de l'étrangeté des caractères, puisque j'ai introduit, c'est des murs sur lesquels on a une foule de Chinois, et sur ces murs il y a une phrase ou deux
en chinois,
en caractère. L'attention des gens se porte tout de suite sur le mystère de la représentation du sens, avant de regarder le reste de la toile.
D'accord. Donc on est plus sur le sens que sur l'aspect esthétique des choses.
Enfin, c'est pour une première approche.
D'accord. Est-ce que vous avez des projets maintenant en France ? Vous êtes revenu ?
Eh bien non, en fait, c'est surtout à l'étranger qu'on me propose des expositions.
Ah bon ?
Oui.
Bon, bah, ça prouve que la Chine intéresse le monde entier. Que vous a appris la vie dans ce pays ?
J'ai cru au début, j'ai eu un peu peur de ça, que après avoir passé quelques temps à Pékin, je serais habitué à jouer des coudes. C'est un peu ce que font beaucoup de Chinois, c'est-à-dire qu'on se fraye une place par tous les moyens. la façon dont on rentre dans un métro, dont on...
On n'a pas le choix, sinon on ne rentre pas.
Et j'avais peur que cet aspect de Chine déteigne sur moi. Ça a peut-être renforcé mon caractère, mais j'espère que je suis resté quelqu'un de discret.
Vous avez gardé vos qualités françaises et européennes. Emmanuel Chantebout, merci. Votre prochaine exposition, c'est où, c'est quand ?
Je participe à une exposition de groupe à New York à partir du 17 juillet.
Bon, eh ben, très bien.
Merci.